With the 25th pick in the 2014 NBA Draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland.
Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Swiss Basket.
Game clock now at 5. Malagian, what's he going to do? Feeds it. Dusan Malagian nails the 3! Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins.
David Pinto, Florian Jass.
Bonjour, buongiorno, gut morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas, pour évoquer ensemble le début des playoffs QV 2024 avec ce premier grand débrief des Game 1 des quarts de finale de post-season qui ont démarré sur les chapeaux de roue. Et comme d'habitude, à mes côtés, on retrouve votre expert basket préféré, Florian Jass, dans sa petite escapade roumaine du côté de Bucarest. Hello my dear, comment il va?
Salut mon David, salut les amis. Mais écoute, ça va, pas mal de marches du côté de Bucarest, pas mal de petits matchs aussi à l'appel avec ce début de playoff, donc tout content.
C'est tout ce qu'on voulait entendre. Hello mon Flo. Alors justement, si vous voulez rien manquer de ces rencontres hein, aussi passionnantes les unes que les autres avec nos débuts des playoffs en SBL, et bah c'est sur nos réseaux sociaux avec la 5ème édition des LCM Awards qui arrive très vite aussi, @le5majeur, tout en lettres. Sans transition, j'ouvre avec un plaisir non dissimulé notre page playoff avec les premières rencontres du début de ce premier tour. 3 succès faciles et un gros upset à se mettre sous la dent hein, du côté des galeries du rivage. Mais avant de revenir et de débriefer l'ensemble de ces rencontres, eh ben on va démarrer par les habituels 5 points du 5 majeur.
Pour commencer, les gros montent les crocs. Alors, gros upset sur le Veneuch. Je vous avais prévenu, il y en a un qui allait partir. Maintenant, ils vont se faire sweeper. Ça sera 3-1 dans cette série, on le sait. Mais c'était là où on voyait, en tout cas, il y avait un petit peu plus de compétition. Effectivement, on y a eu droit. Pour le reste, les gros montent les crocs, encore une fois. Deuxième point, plus ou moins les mêmes ingrédients sur chaque parquet pour faire douter, voire tomber justement les écuries avec l'avantage terrain et ces 4 locomotives de notre championnat. En 3, et c'est celui qui l'a le mieux fait, je pense, Mitar Trivunovic, qui est récidive, qui avait piégé Nifsa Bafsevic l'an passé dans des schémas tactiques où il l'avait empêtré. Il a remis ça il y a 2 jours avec Ivan Beram. En 4, un niveau de compétition que j'estime quand même en dessous des attentes.
C'est pas faux.
Alors, on pourra parler du calendrier, du fait que les équipes ne peuvent plus s'entraîner entre les matchs, etc. Mais je trouve en tout cas que le niveau sur ces premiers matchs n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Et puis pour terminer, le degré d'intérêt du public me paraît être en baisse. Alors on a suivi un peu du côté de Vevey ce qui s'est passé, boycott ou pas, machin. Mais dans l'ensemble, et ça se voit dans les salles bien entendu, mais également sur les chiffres de diffusion qu'a fait Swiss Basket sur ses Game 1 de quart de finale qui sont en nette baisse par rapport à l'an passé, 15 000 l'an passé au total, contre un peu moins de 10 000 cette saison. Donc j'ai quand même le sentiment ouais, que l'intérêt du public est un petit peu en baisse par rapport à la saison passée notamment.
Ouais, c'est ça. Et peu ou prou, hormis les Foxys, tu retrouves quasiment les mêmes équipes qui étaient qualifiées pour la post-season la saison passée. Et c'est sûr que tout vient un petit peu s'entremêler. Le niveau de compétition et ce calendrier dingo qu'on a depuis plus d'un mois, les joueurs sont assez fatigués physiquement, t'as pas le temps de pouvoir beaucoup bosser les mises en place, tu joues mardi ou mercredi, bim, tu remets ça à partir de vendredi, samedi, il y a un Game 3 qui va être le lundi de Pâques. C'est aujourd'hui, je pense, quelque chose que les équipes ont plus ou moins abdiqué, c'est-à-dire que le niveau de jeu va pas être dingo, l'intensité physique elle est là, mais pas à la hauteur de ce qu'on avait pu avoir l'année dernière, parce que tu veux absolument préserver l'intégrité physique de tes joueurs, parce que tu sais qu'une blessure d'un mec peut absolument tout chambouler et qu'aujourd'hui tu marches un petit peu sur des œufs. Et alors t'avais l'effet Tabos et Folocha aux galeries lors de l'année passée qui t'avait fait des audiences assez dingues sur la série face à Neuchâtel, mais tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui voilà, avec cette volonté de finir la saison le plus tôt possible, bah t'as personne dans les salles hein. Le pommier pour le Game 1 était quasiment vide et les audiences s'en ressentent aussi, donc t'as très bien fait de l'évoquer. Mais on va quand même revenir mon Flo sur le terrain et le gros upset, oui, je me suis un peu emballé, mais l'upset, en tout cas, qui sont allés nous réaliser nos amis Ignonis, coucou les revoilous, d'aller refaire le coup comme la saison passée, où en plus, on avait la sensation que Vevey arrivait encore plus fort et Neuchâtel avec moins de certitude. et le père Mitard qui nous a sorti sa boîte à zone. Cette 2-1-2 sur lesquelles les Veuvezans sont notamment en fin de match allés se casser les dents. Et on l'avait annoncé tous les deux, 3-1. Ça met quand même maintenant les Veuvezans dans une situation assez compliquée.
Ah, t'avais donné un 3-1 sur
J'avais
celui-là
donné
aussi,
un 3-1 aussi, tu vois. Autant je m'étais emballé sur le Genève Monté.
Ah oui, c'était le Genève.
C'est le Genève Monté, on y reviendra plus tard. Mais on était tous les deux raccro là-dessus que Neuchâtel pouvait le faire. Je t'avoue, honnêtement, je ne les voyais pas prendre forcément le Game 1. Je m'attendais plus à une réaction à domicile. Là, les Veuvezans, t'as le feu au derge parce que c'est un must win, ce Game 2 qui se profile.
Oui, et puis dans les têtes, tu joues pas de la même manière quand t'es mené 1-0, qu'on est sur une série en 5, hein, c'est pas la NBA. Donc, je veux dire, tu perds encore celui-là à la maison. Tu l'as dit, c'est presque un win or go home parce que si tu perds celui-ci, d'aller sauver deux balles de match derrière la riveraine, ça va être compliqué.
No way, no.
Et forcément, ça met une pression un peu différente sur le groupe. Tu joues pas relâché de la même manière si t'es devant 1-0 et que t'as un deuxième match à la maison que si tu es mené par une équipe qui t'a posé des problèmes tactiques énormes lors de ce premier match. Est-ce qu'ils sont plus forts que l'année dernière, les Veuvezans? Je sais pas. En tout cas, Neuchâtel, on les voyait tous les deux, on était très clairs là-dessus, on les voyait tous les deux en dessous par rapport à ce qu'ils avaient l'an passé. Et en termes de talent individuel, je pense que c'est le cas. Pour être honnête, quand tu regardes les contours de l'effectif, on veut manquer de respect à personne, mais ça l'est. Pour que ça se fasse, il a fallu aussi une bonne volonté de la part de Vevey, on va pas se mentir, hein. Neuchâtel sort un match, tactiquement c'est fort, etc. Mais il a fallu que les Veuvezans y mettent un peu du leur pour aller perdre ce match. Neuch, pour parler d'eux, on reviendra sur Vevey plus tard, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la volonté avec laquelle ils sont restés dans ce match tout le long. Ils sont restés accrochés un petit peu comme des sangsues. Et puis finalement, sur ce dernier quart, ils vont complètement faire déjouer les Veuvezans. Ils ont payé très cher leurs erreurs. Et c'est là où ça me donne un petit signe d'encouragement pour eux, ou de me dire, quand tu regardes les chiffres, ils sont à 50% du parking. Ils ont été diaboliques d'efficacité, ils sont à 50%, je crois aussi, au shoot de manière générale. Mais les gars perdent 20 ballons. Ils perdent 20 ballons sur cette rencontre.
Et ils gagnent le match.
Et ils gagnent ce match. Ils sont quand même capables, en ayant fait des erreurs, mais monumentales par moment. Ça concerne, quand on disait le niveau de jeu est en baisse, etc. Moi, c'est ce match-là particulièrement que je visais. Si vous regardez les premières minutes, c'est une parodie de basket. Et sincèrement, alors ça a été bien par moment, c'est pas nul tout le long. Hein. Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir quand même. Mais voilà, le petit signe encourageant pour me dire peut-être qu'ils peuvent aller en gratter un petit deuxième, faire chier vraiment sur l'ensemble de la série, c'est de me dire les gars ont perdu énormément de balles. Ont pas, je trouve, joué un match énorme au-delà de leur adresse dont on a déjà parlé. Et ils remportent une rencontre à Vevey qui a fini troisième la saison régulière, qui a été un petit peu l'équipe bonbon, dont on disait à domicile, ils vont être très très durs à prendre au moment d'arriver en play-off, etc.
Et boum.
Et bah, finalement, ils les font tomber. Et j'ai envie de dire, sans trop sourciller, dans ce dernier quart, tu le vois venir. Hein.
Non, tu le vois venir à plein nez. C'est exactement ça. Parce que autant Vevey, tu te dis, tiens, est-ce qu'ils ont chié en termes de perte de balles? Tu vois, ils ont 18-6 pour 10 turnovers. Vevey, ils sont en contrôle, plus ou moins, sur toute la rencontre. Tu vois, ils ont toujours, c'est aller 3 postes d'avance, une petite dizaine de pions. Et puis, dans le dernier quart-temps, il y a vraiment une extinction des feux. Parce qu'ils sont venus taper sur cette zone avec un pourcentage à 3 points là, qui est catastrophique. Je crois que t'as une petite vingtaine de pourcents à la 6 sur 30, ce qui est dingo. Et en fait, t'as aucun joueur qui est allé donner ce petit boost mental qui dit, ça y est, on en rentre un, on arrive à trouver des solutions. Et hormis Joe Dubas, t'as aucun joueur qui a un pourcentage décent derrière l'arc. Et ça a donné forcément confiance à Union, qui a pu t'emmener de la transition derrière, d'Alan Enkrum,
ouais,
qui était chaleur.
Joe Dubas, il prend deux shoots, hein, donc il est à 50%, mais il prend deux shoots.
Oui, voilà, il n'y a que Joe Dubas. Tu vois, c'est le reste, Taka, Ikena, Brandon Favre, Rauch, ils ont tous été dans un énorme soir de maladresse. Et au final, elle leur tendait les mains, cette rencontre. Et ils vont, je pense, s'en bouffer un petit peu les roubignoles. Parce que je pense honnêtement qu'ils doivent tourner à 1-0. Ils ont donné le bâton pour se faire battre. Et Union, ils ont vu la brèche. Ils sont tout de suite engouffrés.
Et pourtant, Union, ils y ont mis du leur sur la fin. Je sais plus.
C'est mon Caput.
Si, c'est Slimy joue à Caput.
Ah, le pauvre.
T'as 4 lancés pour aller offrir la victoire, aller offrir 2 postes là dans les. Dans les 25 dernières secondes d'avance à Union et qui fait 0 sur 4. Enfin, je suis d'accord avec toi, Vevey peut se les bouffer, machin, on peut dire ce qu'on veut. Quand, à la lecture des chiffres, encore une fois, Union, ils auront peut-être le coup à jouer encore sur un des 2-3 prochains matchs. Et puis derrière, si tu emmènes cette équipe-là sur un Game 5, bah, on a vu que l'an passé, alors c'est pas tout à fait le même groupe, attention, mais on a vu que l'an passé, ça pouvait être des dangereux phénomènes. La clé de ce match, de toute façon, on l'a vu toute la saison. Les équipes, elles se focalisaient énormément. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu Taka, Likena faire des saisons énormes, dû à leur talent, bien sûr, mais aussi parce qu'on voit des équipes qui se focalisaient beaucoup sur Joe Dubà. Empêcher Joe Dubà de scorer, empêcher Joe Dubà de poster, laisser Joe Dubà prendre un petit peu de loin, etc. Là, avec cette 2-1-2, c'est posé un problème pour les Veuvezans, auquel ils n'ont pas trouvé de réponse pour l'instant, c'est que Joe Dubà ne peut plus créer de jeu. Parce que pendant la saison régulière, on peut me dire ce qu'on a envie, que les deux tournent à 5, 6 à 6 chacun, là, Ikena et Takal. Celui qui vient au périmètre, prendre des ballons, faire jouer un peu l'équipe, calmer, poser, celui qui a le plus cette faculté, de par son expérience, c'est Joe Dubà. Dans une 2-1-2 comme ça, tu es obligé d'avoir un point central où tu viens un petit peu poster, où tu viens trouver un grand dans le milieu. Et malheureusement, aujourd'hui, à l'intérieur, côté Veuvezan, et c'est pour ça qu'ils sont allés cibler de cette manière en face. Mais t'as que Joe Dubà. Adam Kejval, il est pas prêt à recevoir des ballons. Enfin, c'est pas ce type de joueur encore. Il est très loin de pouvoir offrir ce genre de garantie. Et donc, en fait, tu peux pas libérer Joe Dubà pour venir monter un petit peu au périmètre et dire, je vais poser souci avec des hand-off, avec des choix où j'ai ma vision du jeu, etc. Et tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire parce qu'il te manque un autre intérieur à côté. Ça a été très bien fait. Et c'est ce que je vois d'encourageant côté Union. Il y aura des ajustements dans cette série. Mais en termes d'effectifs, il n'y a pas cette possibilité de suppléer Joe Dubà, de permettre à Joe Dubà d'avoir un rôle à jouer dans la création du jeu. Et on voit très clairement, on l'a évoqué plusieurs fois, on avait dit oui, même un petit Brané Kostic, un petit Gus comme ça pour essayer de poser le jeu et tout, ça ferait du bien à cette équipe parce que malgré tout le talent qu'ils ont, ni Takal Molson, ni Ikenna Ndouba ne sont de vrais meneurs, tu vois, de vrais garçons qui vont faire tourner le reste de l'équipe, etc. C'est des scoreurs avant toute chose. Et là, ils ont été, mais alors Takal répond parce qu'il a plus d'ingrédients dans les pénétrations, parce qu'il est plus athlétique, etc. Mais Ikenna, notamment, il a été en perdition face à ça, et il va falloir trouver une vraie solution. Et le problème, encore une fois, dont je viens de te faire part, c'est que ni à l'intérieur, tu as cette solution un peu backup, ni sur la ligne arrière, tu as un petit joueur sans prétention, tu vois, un petit mec qui est capable de t'offrir une douzaine de minutes. Même un Alexander Martino, tu vois, où je veux en venir, ferait probablement du bien à une équipe comme celle-ci. Ouais, Alexander Martino, j'exagère peut-être un peu.
Ouais, t'exagères un peu, non, mais je vois ce que tu veux dire.
Tu vois l'idée? Clairement. Il manque cette pièce-là et ça a été mis en avant de manière magnifique par Mitar et l'effectif d'Union.
C'est exactement ça. Et on sait à quel point, si tu arrives à trouver quelques solutions rapidement quand cette zone elle est déployée dans le quatrième quart-temps, tu peux faire douter l'équipe en face et te donner une fin de match en cruise control, t'es tranquillou. La problématique, c'est que ça répétait inlassablement. Le ballon ne bougeait plus, on essayait de passer d'un côté à l'autre avec des passes hautes, et puis tiens, une transition, deux transitions, trois transitions de suite, et hop, tu vois Union Neuchâtel qui revient et qui prend le momentum. Donc je pense que le game 2 sera différent. J'attends aussi beaucoup de voir les ajustements tactiques d'un Ivan Beram, parce qu'aujourd'hui Vevey est arrivé avec des ambitions. Ok, tu t'es fait surprendre, ça ne m'enlève pas le favoritisme qu'on pouvait leur attribuer, mais là il va falloir, je pense, vraiment taper du poing sur la table sur ce game 2 pour derrière aller à un partout du côté de la Riveraine. Mais ça va être une rencontre assez excitante à suivre ce vendredi soir, et puis en plus pour les Veuvezans, avec toutes ces affaires un peu de boycott, le communiqué qui leur est tombé, début de semaine très compliqué pour les Bleus et jaune du côté des galeries du rivage, et réveil attendu pour Ivan Beram et ses troupes lors de ce Game 2 face aux Neuchâtelois. Allez mon Flo, on va basculer sur les trois autres rencontres, trois succès relativement faciles qui se sont dessinés pour le champion en titre Fribourg Olympique à domicile face au BBC Nyon. Massagno, pas de soucis, hein, ils en collent une petite vingtaine face aux Foxes. Et les Lions de Genève, tiens, on va quand même démarrer par eux. Après un début de match cata, et qui sentait vraiment la poudre, hein. T'es mené 12-0 par les Bulls avec un Michael Sjoberg incandescent du parking. T'arrives à récupérer cette victoire qui était absolument nécessaire après le fiasco et le naufrage de vendredi dernier au bout du monde face au BBC Nyon. Mais comme nous le disait Boris Mbala, voilà, il savait qu'il devait la prendre, mais tu viens pas guérir, loin de là, tous tes maux. et ça change pas trop mon prono où je reste toujours quand même relativement, même fortement inquiet par cette équipe là. Le game 2 va être ultra décisif pour moi juste avant la finale de PBSC, parce que ok, Genève a été pas mal par moment défensivement parlant, il y a eu une certaine intensité en deuxième mi-temps, mais quand tu évoquais le niveau de ces Game 1, moi j'ai été extrêmement déçu, non pas par les Genevois parce que je m'attendais pas à un match reluisant de leur part, mais par les Montezans qui sont complètement passés à côté de leur deuxième mi-temps.
Non, c'est pas bon du tout, et puis il y a le problème de ces équipes-là, quand t'arrives en play-off et que t'as deux options sur le terrain qui sont capables de montrer quelque chose d'intéressant, bon bah tu te focuses un petit peu là-dessus. C'est pour ça qu'on voit des Michael Sjöberg. Je veux dire, je suis très content pour lui. Le mec, il est à 4 sur 5, je crois, à 3 points ou quelque chose du genre. Il met ses 12 points en début de match. Je sais pas s'il en remet dans la foulée. J'ai pas la stat sous les yeux. Mais en fait, tu es tellement focus sur Michael Forrest et Steve Lemont Robinson Jr. qu'il y a des garçons, forcément, qui peuvent un petit peu autour avoir. Il y avait eu ce phénomène l'an passé avec Mateus Rodriguez. Il y a la possibilité d'avoir sa carte à jouer et il faut que les joueurs répondent. Moi, je suis déçu un petit peu de l'impact que peut avoir un Clayton. Je m'attendais à quelque chose de différent. Je suis déçu forcément de l'impact de Michael Forrest et de Robinson Jr. C'est une certitude. Je sais même pas. Ils sont à 10 points les deux
non,
ensemble.
Non, aucun. Il y a aucun joueur à 10 points. Ton meilleur score.
Non, les deux ensemble. Les deux ensemble, je disais.
Ah, 8 et 5, 13. Ouais, 13 pour ce backcourt.
Ouais,
8 tu peux
et 5,
pas.
13. Enfin, voilà. En face, il y a des armes. Il y a des garçons qui peuvent défendre. Ils l'ont très bien fait, Genève. C'est des choses qu'ils ont bien faites. Il y en a pas 50 000 non plus. Ça, c'est une des choses qu'ils ont bien faites. Je suis d'accord avec toi. Le deuxième match, il y aura peut-être ajustement. Encore faut-il avoir. J'ai vu qu'Axel Louisin a pris des minutes sur la fin. Donc, est-ce qu'il est sur le retour?
Il nous l'a confié, en tout cas, qu'il veut jouer et qu'il espère que Cristiano Chugas pourra l'utiliser lors de ce Game 2. Parce que tout du moins, lui se sent en condition de pouvoir apporter. Et c'est vrai que ça apportera une solution de plus.
Voilà. Il y a la petite satisfaction côté Genevois, c'est d'avoir trouvé un rôle maintenant, je dirais même un vrai rôle à Michael Williams, dans un costume qui lui fiait plus, celui de shooter, d'arrêter de vouloir le faire jouer meneur. Donc les arrivées de Brian, de Boris ont soulagé à ce niveau-là. Maintenant, il faut trouver des patrons aussi. Tu peux pas donner 20, 25 à tout le monde. Il faut hiérarchiser cette équipe-là. Donc je suis d'accord avec toi. Très honnêtement, je t'avais dit, moi, je les vois en 3-0. Je les vois toujours sur un 3-0, mais si tu me dis demain, Montel en a pris un, je suis pas non plus étonné parce qu'il y a beaucoup de choses à régler dans cet effectif-là et le temps est pratiquement compté.
Ah bah oui, c'est sûr et certain, hein. T'étais obligé de la prendre, elle t'offre un petit peu de répit. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, l'idée pour les Genevois, c'est d'être pas ridicule concrètement. T'as pas le temps de pouvoir bosser énormément de choses. T'as cette finale de PBSC qui est un petit peu le Saint Graal sur un match face à Fribourg Olympique. Donc voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'aller prendre ces deux matchs à la maison, d'avoir une bonne préparation pour cette grande échéance de Patrick Baumann Swiss Cup. Mais bon, en tout cas, le job a été fait. Pas mal fait par séquence en deuxième mi-temps, mais voilà, pas d'enflammade pour les Lions de Genève parce qu'on sait qu'ils sont sur un fil et ils ont eu un peu de confiance. Et si jamais le match se goupille dans un scénario qui peut aller dans le sens des Montezans, je pense que le doute peut très vite revenir dans les têtes des Genevois. Mais voilà, en tout cas, 1-0 pour Dragan et les siens. Donc, affaire à suivre samedi pour l'acte 2. Allez, mon Flo, on va être plus rapide sur les deux autres rencontres. Forcément, c'est là où on a eu les deux plus gros écarts. 19 pions sur les deux terrains. Fribourg sans trop forcer face au BBC Nyon, 87-68. Le champion qui est en mode cruise control. Les rotations sont bien définies. Et puis, on a le retour de Joe Quesada. Que ça fait du bien quand même de le voir lui. Roberto Kovac, bon, qui est encore en limitation de minutes. Mais les Fribourgeois qui sont en train d'avancer à leur rythme, avec notamment un Nathan Jurkovic qui m'a, moi, bluffé sur ce qu'il a pu faire des deux côtés du terrain. Tu sens quand même qu'avec un Swiss Khalifa ça va être très dur d'aller.
De toute façon, quand tu regardes les contours de cet effectif-là, je regardais un truc je crois que c'est Fribourg Olympique Fans là, qui mettait sur sa page que Kylian Martin était le deuxième meilleur scoreur de Fribourg Olympique sur la saison régulière. Enfin, avec les noms qui est à côté, tu vois, j'étais là, je me disais, ah ouais, d'accord, le coquin. Je sais qu'il a fait une très grosse saison, mais je me disais, là, d'accord, très bien. Donc, oui, Nathan, il a posé des problèmes énormes à Xavier Ford, qui était en difficulté, qui était en galère absolue pour attaquer face à lui. Il a du mal à exister. Il l'a fait avec un peu d'efficacité et tout par instant, mais c'est compliqué. Cette équipe-là, elle est bien rodée, elle a un patron, c'est très clair, avec Joe Casadei qui, à chaque fois qu'il y a des moments. Parce que Cruz Control, ils font une première mi-temps où ils sont en vraie délicatesse, ils sont devant de 2-3 points, je crois, mais d'une possession à la pause, jusqu'à ce tir, justement, de Nathan Jurkovic, jusqu'à ce shoot au buzzer là, pour finir le troisième quart. Juste avant, il y a Jérémy Jonin qui a 3 points aussi. Il y a un in-and-out où tu peux revenir, tu es à 6, tu peux revenir à 3, et puis boum, derrière, tu prends l'ogive de l'autre fou furieux, et tu te retrouves à 9 au lieu de 3, tu vois, tu es à 3 postes au lieu d'une seule. Et là, il y a le tournant du match, et puis le dernier quart, ils sont derrière, ils déroulent un petit peu, ça explose en face physiquement. Mais en tout cas, Nyon fait partie des équipes. Fribourg, logiquement, s'impose, mais Nyon fait partie des équipes qui ont montré quand même un petit. Voilà, je me disais, les Nyonnais, ils peuvent en prendre une trentaine, une quarantaine. Et puis finalement, pendant trois quarts temps, ils te laissent penser presque qu'ils pourraient jouer les troubles faits. Donc félicitations aux Fribourgeois et félicitations également aux Nyonnais. Faut qu'ils continuent, je pense, dans cette direction. Et voilà, il faut trouver un petit peu plus d'adresse, de joueurs qui leur ont fait du bien dernièrement. Je pense à Frédéric Gates. Faut que tout le monde soit au top un petit peu sur un des matchs et pourquoi pas. J'ai du mal à y croire, mais
non, moi aussi, il faut surtout que t'aies
s'il
Malay.
Faut vendre un petit peu le truc pour suivre la série, oui, il faudrait qu'aie Malay, mais ça commence à être compliqué, mon Malay.
Ouais, c'est sûr qu'on le voit en délicatesse sur cette fin de saison, mais ça vient et on va pouvoir clôturer cette page Fribourg. Confirmer ce que nous avait confié Stéphane Ivanovic après le dernier match de saison régulière. Il voulait vraiment faire surtout beaucoup mieux dans la manière que les dernières prestations face à Olympique. Il nous le disait, voilà, ça va être extrêmement compliqué de remporter cette série, mais ne pas être ridicule, faire ce qu'ils sont capables de faire et les gêner avec leurs armes. Et c'est vrai que Fribourg, je les ai trouvés en cruise control, mais Nyon n'a pas été ridicule, loin de là. Et quand tu vois quand même que c'est le huitième face au premier, sur les trois rencontres facilement remportées par Genève, Massagno et Fribourg, Nyon a été l'équipe, je trouve, qui a proposé le plus de résistance. Et Stéphane Ivanovic et les siens, voilà, n'ont pas été ridicules, loin de là. Donc après, il faut que tu sois dans un soir absolument magnifique. JJ Jonah en chaleur, Malay Ndoye qui retrouve ses jambes de
oui,
20 ans.
Oui, il faut que tout le monde soit là une
exact.
Fois et puis.
Voilà, et espérer puis, qu'en face la machine s'enraye un petit peu.
Fort.
Mais voilà, avec un Joe Casadei comme ça, du Couture, du Nathan Jurkovic, tu vois vraiment le Swiss squad de Fribourg qui a l'habitude de ces moments-là et qui permet quand même aux champions en titre de prendre ce premier game 87-68 du côté de Saint-Léonard. Et pour être complet, on va quand même parler de nos amis Ticinese, Spinelli, Massagno, 96-77. Ils sont sur leur dynamique de cette fin de saison régulière, toujours aussi costaud à domicile avec des chiffres assez impressionnants. Et là aussi, les Foxes, est-ce qu'ils auraient pu faire beaucoup plus? J'ai pas tant cette sensation-là. Dequan Morris les a tenus à bout de bras. Et je trouve sur ce match-là qu'il y a vraiment eu un sacré écart entre ce qu'ont pu proposer Massagno et les Vaudois. Je sais pas ce que tu peux dire assez rapidement sur le match des joueurs de Roby Gubitoza, porté là aussi par un énorme Keith Clinton, qui dès le début de match, tu le sentais qu'il était appliqué et a
ouais,
mis ses coéquipiers sur.
Il joue avec des enfants, Keith Clinton. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'en face, il n'y a pas un pivot de métier. Ouais. Je crois qu'ils ont envoyé, je ne me rappelle même plus, mais ils ont envoyé Joao Grosso. Ils ont envoyé. Enfin, voilà, ils ont pas d'options. Ils n'ont pas d'options à l'intérieur, malheureusement. Et forcément, quand tu doubles, bah derrière, au large, ça devient un petit peu plus ouvert. Et si l'équipe fait bien tourner, ce qui a été le cas de Massagno, c'est le point positif, je pense, de leur. Ils sont à
23
assists. 23 assists, voilà, sur cette rencontre. Donc, ça a été le point positif, un petit peu, de se dire, les mecs, voilà, je sers Keith Clinton au poste. Et puis derrière, effectivement, j'ai ce champ de possibilités qui s'ouvre du parking. Ils ont bien géré. Ils ont des joueurs comme Dušan, voilà, qui sont en ce moment dans une 18 minutes, 19 minutes à peine, 17 points.
Ils nous écoutent trop bien.
Ouais, il nous est. Alors après, attention, c'est très facile sur une rencontre comme
oui,
celle-ci. Il faut le faire quand même. Il l'a fait dès le début. C'est pas en fin de match. On peut voir, il y a Flo Steinmann, Brunel. Ils ont tous les deux plus de 10 minutes. C'est pas sur une fin de match machin. C'est voilà, il a fait tourner. Il a des vraies rotations maintenant qui sont installées. Moi, une rotation que j'aime bien, c'est la deuxième qui arrive tout de suite avec ce 5 où tu gardes Isaiah Williams, Keith Clinton et Marco Mladian et tu ajoutes Yuri Solka et Dušan Mladian, c'est une des rotations que j'aime bien chez Massagno. Donc voilà, eux, ils ont fait un match sérieux. Comme je l'ai dit, Keith Clinton, oui, bien sûr, il fait un match énorme. Je vais pas dire le contraire. J'adore ce joueur. Il y a plein de choses dans son match, des petites passes dans le dos, des machins. On voit qu'il a des yeux. Il a perdu pas mal de ballons quand même, mais il fait plein de choses. Mais encore une fois, il jouait avec des enfants. Il y a un panier que je vous invite à aller voir. C'est dans le deuxième quart-temps où le gars, il est là, pris par trois mecs, et puis il met la main en l'air comme ça. Il pousse le ballon. Il met rien sur les jambes et il est capable de mettre un panier.
À la Wemby un peu, ouais.
Un petit mot parce que tu m'as demandé d'être rapide, mais quand même une petite mention pour Kevin Langford qui vit une saison complètement dingue. Le mec n'a pas joué depuis je ne sais combien de matchs. Enfin, s'il en avait joué un sur la fin de saison, et il est toujours là. Antonio Ballard est blessé. Bon, bah, pouf, tu peux rappeler Kevin Langford. C'est un vrai luxe pour Roby Gupitota. C'est une équipe qui tourne à 10 sur cette rencontre-là aujourd'hui, et ça permet à des joueurs comme Marco, comme Dušan, qui n'ont pas énorme de minutes dans les cannes, d'en jouer 19 et 20 et d'être efficace sur du shoot. Voilà, donc c'est très bien fait. Je les invite à continuer dans cette direction. Mais en tout cas, eux ont fait le taf. Et puis, je te laisserai le mot de la fin sur les Foxes. Mais effectivement, je te rejoins. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les pauvres amis.
Oui, clairement, avec leurs armes, un petit peu trop de déchets, de turnover. Et c'est vrai que si tu donnes en plus des munitions extra aux Tessinois, ça devient très, très compliqué. Ouais, Roby nous écoute. Voilà. On va terminer là-dessus. Serrer les rotations serrées. Alors, le scénario se prête à ça. Mais Youri Solka, ça fait déjà 2-3 matchs qui prend beaucoup plus de minutes qu'Alexander Martineau en sortie de banc. C'est lui qui finit les rencontres. Et c'est
ouais, sur le troisième tour, même je dirais plus que deux trois matchs. Sur le troisième tour, il est installé vraiment. Et
oui, et ça change tout parce qu'on parle quand même d'un joueur qui donne plus de certitude sur le poste de meneur de jeu. Tu tournes à 12 en donnant à la fin du temps de jeu à Kouloudrovic et Togni. Mais ouais, Massagno, écoute, il vaut mieux finir la saison costaud que ce qu'ils nous ont habitués sur les dernières années. Le game one est dans la musette. Et puis bon, on va pas se mentir que Roby est assez content, je pense, et ses joueurs de voir que mes Vevezan sont allés perdre ce premier match à la maison, parce que s'ils font le taf et qu'ils arrivent on va pas porter la guingue aux Tessinois, mais à plier la rencontre assez rapidement face aux Foxes, ça peut être que leur avantage de voir une série entre Union et Vevey qui s'attarde dans le temps. Donc écoute, les Foxes.
Et d'un côté, on l'a vu aussi, quand t'arrives sans rythme et tout, il peut avoir le revers de la médaille de temps en temps. Donc ils ont une série tellement particulière, j'ai envie de dire, cette équipe de Randou de Sarzin qui est incapable de dégainer, ils sont encore à 2 sur 15, à 13% du parking. On l'avait dit, tu peux pas avoir des joueurs comme ça, sous-fiables de la ligne à 3 points. Je crois que Jamal George, ça va être ton meilleur shooter sur la saison. Mais c'est un garçon qui a beaucoup le ballon en main. Tu as besoin d'avoir au moins une option derrière et pour exister à ce niveau-là. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Donc peut-être qu'ils arriveront à faire douter sur une rencontre, je leur souhaite. Mais il faut bien comprendre pour les Tessinois que cette rencontre, elle n'a rien à voir avec la suite de leur play-off. Et c'est pas forcément une bonne chose pour eux. Tu vois, une équipe comme Vevey ou Neuchâtel qui va arriver face à Massagno, ce sera ça les confrontations, je ne dis pas de bêtises, qui va arriver face à Massagno en demi-finale. Ils seront quand même dans un rythme tout à fait différent. Le petit bémol que je te mets sur mes Tessinois, il reste le même depuis 3-4 années maintenant. C'est la gestion des émotions, la nervosité dont fait preuve cette équipe. Il y a encore eu une technique de banc à un moment donné. Enfin, t'es dans une série facile, ouais. Justement. Il y a encore une technique de banc. Je vois beaucoup Marco pester contre l'arbitrage, Keith Clinton également. Arbitrage qui n'a pas été au niveau non plus, mais quand on voit les prestations techniquement des joueurs et des acteurs sur les quatre rencontres, est-ce que les arbitres sont vraiment en dessous de ce niveau-là? Sincèrement, j'en suis pas sûr. Mais oui, il y a beaucoup d'erreurs, il y a des anomalies, il y a des trucs. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils arbitrent les yeux bien ouverts ou est-ce qu'ils les ferment à des moments? Non, mais c'est vraiment, il y a vraiment des dingueries par instant. Mais voilà, le bémol, encore une fois, il est celui-ci de se dire qu'il y a de la nervosité. Et dans le combat physique et tout, les Foxes, même s'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, n'ont pas non plus mis l'intensité que seront capables de mettre le futur adversaire des Tessinois en demi-finale. Donc il y a quand même encore quelques petites onces d'inquiétude sur ces sujets.
Oui, de toute façon, ça c'est assez constant. On sait très bien que nos amis Tessinois, ils vont pas nous offrir une résistance mentale comparable à celle de Fribourg Olympique. Mais les Foxes, oui, vaillants, mais trop limités. Tu l'as dit, il n'y a que Jamal George. Tu l'évoquais, je suis allé checker la stat, qui a marqué à 3 points. 2 sur 15 pour le reste de ses coéquipiers. C'est un zéro pointé.
Ouais.
C'est un zéro pointé. Et puis c'est ça, et ce manque de banc. aujourd'hui, clairement, parce qu'il y a 10 points pour Grosso, 15 pour Jamal, Dequan Morris que j'ai trouvé très très bon, même Omar Elcher qui fait ce qu'il peut à l'intérieur. J'ai pas trouvé le 5 ridicule, loin de là, mais aujourd'hui, t'as le fait que d'avoir cette rotation extrêmement limitée et très peu de solutions qui sortent du banc. On va voir si les Foxes arrivent un petit peu plus les plonger dans le doute lors de ce Game 2 avec une second unit un peu plus efficace. Donc affaire à suivre après ce succès 96-77 de Spinelli Massagno. Allez mon Flo, on a été plus que complet sur ces Game 1 de ces quarts de finale hein, et pas le temps de niaiser comme dirait l'autre avec l'acte 2 qui démarre dès ce vendredi et ce must win pour Vevey à domicile face à Neuchâtel puis place aux trois autres rencontres samedi après-midi avant de remettre le couvercle pour le lundi de Pâques. Allez, on va clôturer ce podcast avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Florian Jasse, qui sera de retour, ne vous inquiétez pas, dès ce week-end de son petit périple roumain du côté de Bucarest. J'allais te dire un mot en roumain, mais mon vocabulaire est assez restreint. Dankai mai dir pour la préparation de cette émission.
Allô.
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 Salut.
Salut, c'est bonjour.
Salut, ouais, ça j'ai compris. Allez, Dankai mai dir, profite bien de cette épopée roumaine et puis rendez-vous dès ce week-end pour ce Game 2.
Merci mon petit pin, ciao les amis, portez-vous bien.
Et allez, ciao mon Flo. Allez, quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, hein. Faites pas trop les fofolles et les foufous et sortez couverts, hein. Et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux pour ne pas louper une miette de l'actu Swiss Basket. Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures du 5 majeur. Ciao ciao.